Chapitre 56. Doux sont les souvenirs qui jamais ne se fanent. Quand Jean-Louis et Armelle Cossin viennent se recueillir sur la tombe d'Anaïs, ils ne savent pas qui je suis. Ils ne font pas le lien entre la jeune femme timide et mal fagotée avec laquelle ils ont déjeuné le 13 juillet 1993 à Malgrange et l'employé municipal soigné qui arpente les allées du cimetière de Brancion d'un pas décidé. Ils m'ont déjà acheté des fleurs, sans me reconnaître. Après la mort de ma fille, j'ai perdu 15 kilos. Mon visage s'est à la fois creusé et bouffi. J'ai pris 100 ans. J'avais le visage et le corps d'une enfant dans une enveloppe froissée. Une vieille petite fille. J'avais 7 ans et des poussières. Sacha disait de moi « un vieil oisillon tombé du nid et qui a pris la pluie ». Après ma rencontre avec Sacha, j'ai mué, j'ai fait pousser mes cheveux et j'ai changé de vêtements. J'ai perdu le goût des jeans et des sweatshirts. Quand j'ai retrouvé mon corps, quand je l'ai vu dans une vitrine de magasin, c'était celui d'une femme. Je l'ai mis dans des robes, des jupes et des chemisiers. Les traits de mon visage ont changé. Si j'avais été un tableau, je serais passée des ovales anguleux de Bernard Buffet à ceux presque éthérés d'Auguste Renoir. Sacha m'a fait changer de siècle, revenir en arrière, pour continuer à avancer. La dernière fois que j'ai vu Polo dans son camion Emmaüs, je lui ai donné les dernières affaires de Léonine, ma poupée Caroline, mes pantalons et mes écrases-merdes. J'ai limé mes ongles, dessiné un trait de crayon sur mes paupières et acheté des escarpins. Stéphanie, qui m'avait toujours connue en jean et le visage au naturel, m'observait d'un œil soupçonneux quand je posais de la poudre et du rose à joues sur son tapis de caisse. Encore plus qu'à l'époque où je posais des bouteilles d'alcool en tout genre sous son nez. Les gens sont drôles. Ils ne supportent pas de regarder une mère qui a perdu son enfant dans les yeux, mais ils s'étonnent encore plus de la voir se relever, s'habiller, se pomponner. J'ai appris la crème de jour, la crème de nuit, les roses poudrées comme d'autres apprennent à faire la cuisine. La femme qui s'occupe du cimetière a l'air triste, mais elle sourit toujours aux passants. Avoir l'air triste, je suppose que c'est le métier qui veut ça. Elle ressemble à une actrice dont j'ai oublié le nom. Elle est jolie, mais sans âge. J'ai remarqué qu'elle était toujours bien habillée. Hier, je lui ai acheté des fleurs pour Gabriel. Je n'avais pas envie de lui offrir mes roses. La femme qui s'occupe du cimetière m'a vendu une très jolie bruyère mauve. Nous avons parlé de fleurs ensemble. Elle semble passionnée par les jardins. Quand je lui ai dit que je possédais une roseraie, elle s'est illuminée. Ce n'était plus la même. C'est ce qu'a écrit Irène Fayolle à mon sujet dans son journal en 2009, un mois après l'enterrement de Gabriel Prudent, des années après la disparition de Philippe Toussaint. Si Irène Fayolle avait su qu'un jour, la dame qui s'occupe du cimetière passerait une nuit d'amour avec son fils, je n'ai pas de nouvelles de Julien seul. J'imagine qu'il va arriver un matin, en silence, comme à son habitude. Comme moi, quand j'ai quitté l'hôtel Armance. Je pense à notre nuit d'amour devant le cercueil de Marie Gaillard, 1924-2017, que l'on met en terre. Il paraît que Marie Gaillard était méchante comme une teigne. Son employé de maison vient de me glisser à l'oreille qu'elle est venue à l'enterrement de la vieille pour être sûre qu'elle était bien morte. Je me suis violemment pincé l'intérieur de la main pour ne pas rire. Il n'y a pas un chat autour de la tombe, pas même ceux du cimetière, pas une fleur, pas une plaque. Marie Gaillard est enterrée dans le caveau familial. J'espère qu'elle ne sera pas trop odieuse avec ceux qu'elle va retrouver. Il n'est pas rare de voir des promeneurs cracher sur des tombes. Je l'ai même vu plus souvent que je ne l'aurais cru. Quand j'ai débuté, je pensais que les hostilités mouraient avec l'être détesté. Mais les pierres tombales n'enferment pas la haine. J'ai assisté à des enterrements sans larmes. J'ai même assisté à des enterrements heureux. Il y a des morts qui arrangent tout le monde. Après l'inhumation de Marie Gaillard, l'employé de maison murmure que la mauvaise thé, c'est comme le fumier, l'odeur s'accroche au vent très longtemps, même après qu'on l'a enlevé. À partir de janvier 1996, je suis retournée voir Sacha un dimanche sur deux. comme celui qui n'a pas la garde de son enfant le retrouve un week-end sur deux. J'empruntais toujours la Fiat Panda rouge de Stéphanie, qui me la prêtait sans rechigner. Je partais le matin à 6 heures et revenais dans la soirée. Je sentais que cela ne pourrait pas durer, que très vite, Philippe Toussaint me poserait des questions, m'empêcherait de partir. Il était très méfiant. Au fil de mes visites au cimetière de Brancion, je changeais physiquement, comme une femme qui a un amant. Mon seul amant a été le fumier que Sacha m'a appris à faire avec du crottin de cheval. Il m'a appris à bêcher en octobre, recommencer au printemps en fonction du temps, faire attention aux vers de terre, ne pas les écorcher pour qu'ils puissent faire leur boulot. Il m'a appris à regarder le ciel et décider s'il fallait planter en janvier ou plus tard si je voulais récolter en septembre. Il m'a expliqué que la nature prenait son temps, que des aubergines plantées en janvier ne sortiraient pas avant septembre, et que dans les plantations industrielles, ils aspergeaient en grosse quantité les légumes avec des engrais chimiques pour qu'ils poussent vite. Un rendement inutile au potager du cimetière de Brancion. Personne n'attendait ces légumes à part lui, le gardien, et moi, son vieil oisillon tombé du nid. À n'utiliser que la nature pour faire pousser la nature. Jamais d'engrais autre que brut. Il m'a appris à faire du purin d'ortie et de l'infusion de sauge pour traiter les légumes et les fleurs. Jamais de pesticides. Il me disait « Violette, le naturel, c'est beaucoup plus de travail. Mais le temps, tant qu'on est vivant, on le trouve. Il pousse comme les champignons dans la rosée du matin. » Il m'a vite tutoyé. Moi, jamais. Quand il me voyait, il commençait par m'engueuler. « T'as vu comme t'es fagotée ? Tu peux pas t'habiller pour la belle femme que tu es ? Au fait, pourquoi t'as les cheveux courts ? T'as des poux ?» Il me disait cela comme s'il s'adressait à un de ses chats, des chats qu'il adorait. J'arrivais le dimanche matin vers 10 heures. J'entrais dans le cimetière, j'allais sur la tombe de Léonine. Je savais qu'elle n'était plus là, que sous ce marbre, il n'y avait que du vide. Comme un terrain vague, un no man's land. J'allais lire son prénom et son nom, et les embrasser. Je ne posais pas de fleurs, Léonine se fichait des fleurs. À 7 ans, on préfère les jouets et les baguettes magiques. Quand je poussais la porte de la maison de Sacha, il y avait toujours cette odeur, ce mélange de cuisine simple, d'oignons qu'on fait revenir dans une poêle, de thé et de rêves d'océan, qu'il aspergeait sur des mouchoirs éparpillés au hasard dans la pièce. Et moi, dès que j'entrais, je respirais mieux. J'étais en vacances. Nous déjeunions face à face, c'était toujours bon, coloré, épicé, parfumé, goûteux et sans viande. Il savait que je l'avais en horreur. Il me posait des questions sur mes semaines, mon quotidien, la vie à Malgrange-sur-Nancy, mon travail, mes lectures, la musique que j'écoutais, les trains qui passaient. Il ne me parlait jamais de Philippe Toussaint ou, quand il l'évoquait, il disait « lui ». Très vite, nous sortions dans son jardin pour travailler ensemble. Qu'il gèle ou qu'il fasse beau, il y avait toujours quelque chose à faire. Planter, faire des semis, repiquer, poser des tuteurs, biner, désherber, bouturer, entretenir les allées, tous les deux penchés vers la terre, les mains dans la terre, tout le temps. Les beaux jours, son grand jeu était de me viser avec le tuyau d'arrosage. Sacha avait un regard d'enfant et les jeux qui allaient avec. Il était le gardien de ce cimetière depuis des années. Il ne parlait jamais de sa vie privée. La seule alliance qu'il portait était celle retrouvée dans son premier jardin potager autour de la carotte. Parfois, il sortait Regain, le roman de Jean Giono, de sa poche et m'en lisait des passages. Je lui récitais les extraits de l'œuvre de Dieu, la part du diable, que je connaissais par cœur. Parfois, nous étions interrompus par une urgence, quelqu'un qui avait des douleurs lombaires ou une cheville foulée. Sacha me disait « Continue, je reviens ». Il disparaissait une demi-heure pour s'occuper de son patient et revenait toujours avec une tasse de thé, le sourire aux lèvres et la même question « Alors, où en es-tu avec notre terre ?» Que j'ai aimé cette première fois. Les mains dans la terre, le nez au ciel, pour faire le lien entre ces deux-là. Apprendre que l'un n'allait pas sans l'autre. Revenir 2 semaines après les premières plantations et voir la transformation, compter les saisons autrement, la force de la vie. Entre ces dimanches-là, j'avais l'impression d'une attente interminable. Le dimanche où je n'allais pas à Brancion était un désert où seul le futur comptait, la ligne d'horizon du dimanche suivant. J'occupais mon temps en lisant les notes que j'avais prises, ce que j'avais planté, comment j'avais fait telle ou telle bouture, mes semis. Sacha m'avait confié des magazines de jardinage que je dévorais comme j'avais dévoré l'œuvre de Dieu, la part du diable. Au bout de 10 jours, je me faisais l'effet d'une prisonnière qui compte les dernières heures qui lui restent avant sa libération. Dès le jeudi soir, je commençais à trépigner. Le vendredi et le samedi, n'y tenant plus, je partais marcher entre chaque passage de train. J'en avais besoin pour canaliser mon énergie sans que Philippe Toussaint s'en aperçoive. Je prenais des chemins de traverse qu'il n'empruntait pas avec sa moto. Si par hasard il était là, je lui racontais que je partais faire une course en vitesse. Le samedi en fin d'après-midi, je passais prendre la panda de Stéphanie qui était garée devant chez elle. Jamais personne au monde n'a aimé une voiture comme j'aimais la Fiat Panda de Stéphanie. Aucun collectionneur, aucun chauffeur de Ferrari ou autre Aston Martin n'a ressenti ce que je ressentais en posant mes mains tremblantes sur le volant, en tournant la clé, en passant la première, en appuyant sur l'accélérateur. Je parlais au tigre blanc. J'imaginais ce que j'allais retrouver, les plants qui avaient poussé, les semis à repiquer, la couleur des feuilles, l'état de la terre, meubles, sèches ou grasses, l'écorce des arbres fruitiers, l'avancement des bourgeons, des légumes, des fleurs, la peur du gel. J'imaginais ce que Sacha m'avait préparé pour le déjeuner, le thé que nous boirions, l'odeur de sa maison, sa voix, retrouver mon Wilbur Larch, mon médecin personnel. Stéphanie pensait que j'étais impatiente de retrouver ma fille, mais j'étais impatiente de retrouver la vie après ma fille. D'autres vies que la mienne. La principale s'étant éteinte, le volcan était mort. Mais je sentais des ramifications, des contre-allées poussées à l'intérieur de moi. Ce que je semais, je le ressentais. Je m'ensemençais. Pourtant, la terre désertique dont j'étais constituée était bien plus pauvre que celle du potager du cimetière. Une terre de caillasses. Mais un brin d'herbe peut pousser n'importe où, et j'étais faite de ce n'importe où. Oui, une racine peut prendre vie dans du goudron. Il suffit d'une micro-fissure pour que la vie pénètre à l'intérieur de l'impossible. Un peu de pluie, de soleil, et des souches venues d'on ne sait où, du vent peut-être, apparaissent. Le jour où je me suis accroupie pour cueillir les premières tomates que j'avais plantées 6 mois plus tôt, Léonine recouvrait depuis longtemps le jardin de sa présence, comme si elle avait amené la Méditerranée jusqu'au petit potager du cimetière où elle était enterrée. Ce jour-là, j'ai su qu'elle était à l'intérieur de chaque petit miracle que la terre produisait.